Merci à tous d'être venus dans la salle. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième table ronde qui est animée par ma collègue Adélaïde Boulanger, qui est responsable du service lecture et handicap à la BPI et qui va donc vous présenter nos invités autour de cette table.
Merci Julien. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde table ronde de la journée, on va parler des grandes étapes qui sont nécessaires à la mise en place de séances accessibles au sein des bibliothèques. Et un grand merci à nos quatre invités qui vont nous parler de ces questions ce matin. Je vais les présenter et puis je vais les inviter à parler un petit peu de justement ce qu'ils font au sein de leur bibliothèque ou au sein de leur association. Alors, je vais commencer par vous, Aurore. Aurore Soyer, vous êtes médiatrice handicap pour la médiathèque Jean Falala à Reims. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous proposez au sein de votre bibliothèque et puis comment est né ce projet ?
Bonjour à tous. Donc, ça fait 15 ans que je travaille pour le réseau des bibliothèques de Reims. Donc, je suis déficiente visuelle, ça aide un petit peu pour faire des projection accessible. Nous, c'est une volonté de l'association Valentin Ahuy, qui a un comité régional dans notre ville, donc à Reims, et c'est les usagers qui ont demandé pour avoir des projections de films en audio description, parce que nos cinémas ne le proposaient pas, donc il y a quelques années. Donc on a commencé à mettre ça en place avec une trentaine de personnes au tout début pour les films. Et maintenant, depuis 15 ans, on a entre 100, des fois 120 personnes qui viennent aux séances en audio description. Donc c'est vraiment une démarche pour eux, c'était vraiment une demande. Et au départ, de la fiction. Et puis il y a 15 ans, on n'avait pas autant de choix de films pour l'audio description. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces années, on s'est orienté un petit peu, on a changé, on est passé de la fiction au documentaire, on a testé aussi le court-métrage parce que j'ai eu de la chance d'avoir des films audio-décrits, des courts-métrages audio-décrits. On a testé aussi les films d'animation, je leur ai tout donné, je leur ai tout mis. Donc, parce qu'on a des publics qui viennent à la bibliothèque parce que c'est une séance audio-décrite, ils ne viennent pas parce que c'est tel ou tel film, ils viennent parce que c'est audio-décrit. Et il y en a d'autres qui sont plus exigeants, qui viennent pour le film. Et puis on travaille aussi avec des enfants. On a une école pour déficience sensorielle à Reims, avec des jeunes déficients visuels, il y a aussi des enfants sourds et malentendants. Et donc dans cette école, ils avaient une toute petite bibliothèque, deux livres tactiles, mais vraiment des vieux livres. Donc ils sont venus au départ à la bibliothèque pour le livre tactile. Donc on faisait des séances de lecture. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à amener un petit peu le cinéma. Mais dans cette école, ces enfants ont ce qu'on appelle des troubles associés, donc des problèmes de concentration, etc. Alors on a commencé avec du cours. On a fait les 4 saisons de Léon, pour ceux qui connaissent. Donc 4 petits films, 4 saisons différentes, donc ils sont venus 4 fois. Et à la fin, le petit Robin m'a dit, de toute façon, Aurore, on a lu tous tes livres. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est du long métrage. On veut des films plus longs. On est capable de tenir plus de 20 minutes pour regarder un film. Et puis tes livres, on les lira plus tard. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a vu que ça a changé un petit peu. Et puis, depuis quelques années, j'ai été formée par Marie-Diane, il y a l'animation d'ateliers d'audiodescription pour faire découvrir l'audiodescription. Et j'anime des itinéraires EAC, donc si vous êtes en bibliothèque, vous savez ce que c'est, des itinéraires d'éducation artistique et culturelle pour les élèves de cycle 3, donc des ateliers de découverte et d'écriture autour de l'audiodescription pour vraiment faire connaître l'audiodescription aux jeunes.
Merci Aurore. David de Philippot, bonjour. Vous êtes responsable du pôle sourd à la bibliothèque André Malraux, une bibliothèque de la ville de Paris. Et vous êtes également médiateur culturel, notamment pour la BPI, où vous assurez les visites en langue des signes française de nos expositions et donc actuellement de notre exposition autour de Corto Maltese. Alors, un peu la même question que pour Aurore, qu'est-ce que vous proposez comme séance accessible au sein des bibliothèques de la ville de Paris, et puis depuis quand vous proposez ces séances, comment est née un peu cette idée?
Oui, je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça. Alors, donc, je travaille depuis 17 ans dans les bibliothèques de Paris, effectivement, et sur la question du lien avec le cinéma, c'est vrai que nous, c'est des événements qui sont un peu plus exceptionnels. Donc, effectivement, il faut sélectionner les sous-titres sourds et malentendants, précisément, SME, donc avec des codes couleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce style de sous-titres en particulier, et donc, en fait, on ne fait pas une projection, et puis ensuite, merci tout le monde, au revoir, on organise des échanges, des débats, des temps, en tout cas, pour savoir si les gens ont apprécié. Maintenant, voilà, c'est des événements qui sont en général assez exceptionnels, à moins qu'il s'agisse d'un film vraiment proposé pour les personnes sourdes, précisément sur cette thématique, ou des fois des avant-premières, des choses comme ça. Voilà pour ce qu'on propose.
Merci David. Alors pour la question d'avoir accès à une projection avec des sous-titres SME, on en aura une cet après-midi justement, donc pour le public qui est présent dans la salle, ce sera l'occasion de le découvrir. Je vais passer aux représentants et représentantes d'associations qui accompagnent les bibliothèques sur ces questions. Juliette Monnier, vous êtes coordinatrice du dispositif Ciné Relax, hein, qui est un dispositif justement qui fait partie de l'association Culture Relax. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association et plus particulièrement sur Ciné Relax ?
Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, quelques mots sur Culture Relax. Vous verrez, ça fait beaucoup de relax. Je vais essayer de clarifier un petit peu notre changement de nom. Culture Relax, c'est une association que vous connaissiez peut-être sous le terme Cinéma Différence. On existe depuis 2005 et nous accompagnons des établissements, que ce soit des salles de cinéma, aussi au spectacle vivant, donc des opéras, des salles de concert et autres, et donc des médiathèques et bibliothèques intéressées par la projection accessible, notamment auprès des publics qu'on va plutôt nous ranger dans la catégorie de handicap complexe, c'est-à-dire des personnes qui vont peut-être avoir, de par leur comportement plus atypique, un accès qui va être très limité aux salles, puisque dans les salles, on ne parle pas, on ne bouge pas, il y a toute une codification, et vous avez la même en médiathèque, peut-être de manière un peu plus forte sur cette notion de silence qui reste encore très marquée dans vos espaces. Au cinéma, en tout cas, ces publics, leur accès leur est rendu très difficile, puisque notamment les personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap psychique, intellectuel ou cognitif, peuvent avoir justement tout un tas de manifestations qui vont peut-être venir parfois parler plus fort, avoir besoin de bouger, se lever, vocaliser, verbaliser, toutes ces actions qui peuvent venir rendre la séance plus vivante. Et donc nous accompagnons tous ces lieux à la mise en accessibilité de leur projection ou bien de leur représentation pour le spectacle vivant. Petite particularité nous concernant, donc on a changé de nom en 2022. Aujourd'hui, moi je représente Ciné Relax, qui est notre dispositif d'accessibilité au cinéma et en médiathèque. Vous aurez un temps plus concret sur l'application médiathèque avec une de nos représentantes pour la médiathèque Grand Champ des Fontaines, qui vous en parlera aussi puisqu'elle est partenaire du projet. Mais aujourd'hui, voilà, je répondrai plutôt à la question du dispositif et sur l'accompagnement en médiathèque. Notre particularité, et je reviens sur la table ronde qui a eu lieu ce matin, c'est que notre expertise, elle naît de parents concernés par le handicap. On est vraiment, même si on n'a pas l'occasion au quotidien d'avoir des retours ou des feedbacks de la part des spectateurs, on est par contre cette conscience que le handicap, ce n'est pas seulement la personne concernée, mais tout son écosystème, notamment aussi les accompagnants, qu'ils soient professionnels ou bien les parents. Et notre conseil d'administration et la création de notre association est née vraiment de ce témoignage de parents concernés pour qu'on améliore l'accessibilité à tous ces publics.
Merci Juliette. Et enfin, Eric Camaldin, vous êtes responsable...
Camaldine, pardon,
je savais que j'allais faire la faute.
Je vous en prie, pas de soucis.
Vous êtes responsable des actions éducatives au sein de Retour d'Image. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association et comment vous accompagnez les bibliothèques ?
Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, Retour d'Image, c'est un centre de ressources cinéma handicap qui travaille autour de trois axes. Donc, le premier axe est l'axe de programmation. Donc on va programmer des films adaptés, ayant pour angle la représentation du handicap, dans un but, dans le cadre de ciné-débat inclusif. On a également un axe qui est celle de la formation, sensibilisation et le conseil auprès de professionnels, mais aussi, que je développerai justement un peu plus lors de cette table ronde, et enfin des actions d'éducation à l'image, donc des mises en place d'ateliers au sein de différentes structures pour différents types de publics. Alors, comment on accompagne les bibliothèques, en quelques mots, puisque je pense qu'on va pouvoir en parler largement. Alors, on l'accompagne de trois manières. Donc, la manière donc, de mise en place d'actions éducatives. Donc, on mène des ateliers d'auto-inscription, par exemple, au sein de différentes médiathèques, lors peut-être de journées pro, ou peut-être une volonté de la médiathèque de travailler sur cette thématique-là. On travaille aussi avec des médiathèques pour dessiner des débats. Des cinémas inclusifs et aussi donc, notre axe de formation où on va proposer des formations notamment en partenariat avec Images en Bibliothèque.
Voilà. Merci à tous les quatre pour cette première présentation de vos activités respectives. Alors la première étape dans la mise en place de séances accessibles dans une bibliothèque, ça va être de réfléchir à sa programmation. Sachant que, comme on l'a vu lors de la première table ronde ce matin, le choix de films est assez restreint, que ce soit de trouver des films accessibles avec soit des pistes d'audio-description ou des pistes SME, ça restreint déjà la possibilité de tout ce qu'on peut diffuser. Juliette, est-ce qu'on peut tout programmer dans une séance relax et notamment du cinéma documentaire ?
Alors la question de la programmation, pour nous en fait c'est aussi un enjeu d'actualité, c'est-à-dire que nous on encourage toujours les salles de cinéma, la question des médiathèques est un petit peu à part sur l'actualité cinématographique de par vos collections en DVD, mais en tout cas sur l'accompagnement au cinéma, on va toujours encourager la salle à prendre un film de sa programmation actuelle avec des recommandations qui sont plutôt de l'ordre de la durée nous concernant, puisqu'on sait très bien que la question de la concentration pour nos publics est importante, la question aussi donc de la durée et donc aussi de la narration, une narration qui va être très complexe avec par exemple, je prends l'exemple d'un Quentin Dupieux, par exemple, qui est quand même très difficile en termes de narration, avec souvent des retours dans le passé, des flashbacks à n'en plus finir. Évidemment, en termes de narration, ce sera plus délicat. Donc le cinéma documentaire peut s'y prêter, peut se prêter vraiment à l'exercice de la relax, notamment puisque on le remarque alors sur des documentaires peut-être plus classiques en termes de modèle, on parle pas de documentaire expérimental, entendons-nous, mais plutôt sur du documentaire même, par exemple animalier, même si on peut aller un petit peu plus loin, mais en tout cas on se rend compte que nos publics ont une véritable attention à, en tout cas au plan ou en tout cas au contemplatif notamment, que parfois peut proposer le documentaire, en tout cas une certaine forme de documentaire, donc ça peut vraiment fonctionner. Nous on aura vraiment cette vigilance sur la durée, sur la complexité de la narration, sur aussi le décalage, et on en parlait ce matin, sur le fait de se sentir aussi en accord avec une société qui avance. Je pense par exemple à un dispositif qui va passer un film qui a existé il y a 10 ans. Évidemment, un parent ou quelqu'un concerné par le handicap, qui le lundi matin va arriver à la machine à café, il aura plus de plaisir de parler d'un film plus récent, puisqu'en termes aussi de discussion avec les collègues, ça va peut-être permettre aussi d'avoir un point plus important de dialogue qu'un film qui est sorti il y a beaucoup plus longtemps. Donc il y a aussi tout ce facteur social à prendre en compte dans le choix d'un film, notamment un film dont tout le monde parle, un film qui a déjà eu peut-être du succès, peut être aussi un bon facteur pour pouvoir attirer à nouveau et vraiment faire que le public concerné accède à un film de choix. Et après, bien sûr, il y a la question de la qualité. Alors nous, on entend souvent que, par exemple, on a des salles qui ont tendance à beaucoup passer de cinéma d'animation, en se disant que le cinéma d'animation sera plus facile, en tout cas plus compréhensible, mais ça, c'est un souci même dans l'éducation à l'image. C'est-à-dire qu'on a du mal à dissocier le fait que le film d'animation n'est pas forcément un film pour enfants. Ça, c'est vraiment une vraie question aussi d'accessibilité. On ne passe pas forcément un film d'animation en se disant que ça sera plus simple. C'est vraiment un vrai enjeu de compréhension du film, de son âge, sachant que tout comme Aurore à la médiathèque, on a aussi des publics qui ne viennent pas pour le film, malheureusement. Ils viennent pour le principe de la séance. Donc on se doit aussi de respecter toute une diversité de publics dans leurs attentes de goût, de proposer aussi des films de qualité, mais aussi dans cette notion de diversité des publics, d'avoir peut-être cette alternance sur le jeune public, sur un public plus âgé. Donc il y a tout un enjeu sur la programmation en médiathèque, dans lequel bien sûr on vous accompagne dans le cadre du dispositif Ciné-Relax, pour essayer peut-être de vous aiguiller sur une programmation passée. On n'a que ce luxe-là d'avoir l'expérience cinéma, et donc les films dont vous disposez dans vos collections ont possiblement déjà été passés par le réseau précédemment, au moins dans l'année d'avant. Donc ça permet d'avoir une petite orientation sur les choix de programmation, mais le documentaire en tout cas aurait sa place.
Bah super. Aurore, de votre côté, qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de programmation ? Est-ce que c'est toujours en lien avec ce qui est proposé au sein de votre bibliothèque en termes d'actualité ou pas du tout ?
Alors, c'est pas évident de trouver des films en lien avec les actualités de la bibliothèque, parce que même s'il y a de plus en plus d'audiodescription, moi je m'attache vraiment à la qualité de l'audiodescription. Et donc au départ, quand on a commencé à faire de l'audiodescription, 2008-2010, tout ça, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix, et donc on a été obligés. Et les films, c'était pas toujours de grande qualité, c'était bavard. Il y a une claque qui porte, on dit que la claque porte, comme disait ce matin Marie-Laure. Mais moi je regarde les films avant. La première chose, c'est je vais passer un film que j'ai vu et qui m'a fait quelque chose. Je passerai jamais un film que j'ai pas aimé. Tant pis pour si j'ai pas les mêmes goûts que mes usagers. Mais voilà, j'aime beaucoup le cinéma, j'y vais tout le temps. Donc je passe des films qui m'ont fait une émotion. Après, le film que j'aime, je vais peut-être pas le trouver dans mon catalogue. On est soumis à un marché public, en bibliothèque. Et donc j'ai trois fournisseurs qui sont Zwang Film, ADAV Europe et Interfilm, qui est un ciné-club. Et donc je vais devoir leur demander aux trois pour avoir les droits de ces films. Et j'ai un budget, j'ai 2000 euros de budget à l'année, et je dois faire mon année avec ces 2000 euros. Donc j'arrive à mettre à peu près 8 films par an, et j'arrive toujours à en trouver un gratuit.
Les yeux d'oc.
Voilà, avec les yeux d'oc. Et les yeux d'oc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix de films, donc là aussi c'est pareil.
Ça va venir.
C'est la programmation, j'ai plusieurs facteurs, j'ai la qualité audiodescriptive, j'ai le choix du catalogue, j'ai mon envie à moi, et puis les usagers aussi. Parce que je ne peux pas tout le temps leur mettre des comédies ou des thrillers. Je mets un petit peu de tout. Et je pense que j'y arrive bien, parce que depuis 15 ans, ça ne fait que d'augmenter. Mmh. Et puis même pour le court-métrage et le documentaire, je l'ai vraiment amené longtemps après. Et ça a bien, bien marché. Le problème aussi, c'est dans les choix, c'est que souvent, quand c'est des films audio-décrits, c'est des films qui parlent de handicap. Et moi, spectatrice déficiente visuelle, j'en ai marre de voir des films qui parlent de handicap. Mmh. Moi, je veux voir un film, de baston, je veux voir un film d'amour. Là, on avait tout un cycle sur la boxe. Il a fallu que je trouve un film sur la boxe. J'ai galéré, mais j'en ai trouvé un, Victor Young Perez, qui était très bien. Bon, un peu violent pour certains de mes adhérents. Je leur ai dit, mais c'est pas grave, vous voyez pas le sang gicler. Donc, petite blague, ils me connaissent bien. Mais on essaye de trouver pour que ça plaise à tout le monde et en fonction aussi des catalogues. Mais il y en a de plus en plus. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est primordial, c'est de voir le film avant, de pas projeter un film qu'on n'a pas vu.
Ouais. Merci. David, je vous voyais réagir à ce que disait Aurore. Est-ce que vous, c'est les mêmes réflexions qui accompagnent vos choix de programmation? Comment vous les choisissez, les films? Vous rencontrez les mêmes problématiques?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que dans les bibliothèques, il y a des budgets et qui ne sont pas extensibles. C'est vrai que c'est la problématique, et donc c'est assez rare de pouvoir proposer comme on veut. C'est vrai que si on a un film qui vraiment nous a beaucoup plu, quand on voit qu'il y a le sous-titre sur petit écran, des fois on change, on se dit il y a peut-être de la langue des signes. Alors il y a les sous-titres, c'est vrai que les gens peuvent se dire aussi sur des séances, je vais avoir les sous-titres, je peux les avoir à la maison, pourquoi aller à la bibliothèque, là où des fois on peut avoir des versions avec de la langue des signes qu'on aimerait pouvoir proposer en bibliothèque, mais on est bloqué par les prix et les budgets, bien sûr. Donc on aimerait bien pouvoir évoluer sur différentes formes, comme ça avoir une offre qui se développe, qui est de plus en plus importante. Mais c'est vrai que c'est des fois compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu Petit Yeti, par exemple. C'est un dessin animé pour les enfants, là. Donc il y a une histoire avec, effectivement, un comédien en langue des signes. Donc ça commence petit à petit à se faire. Mais à l'heure actuelle, c'est à la télévision. Et on aimerait bien pouvoir avoir accès à ça dans les bibliothèques. Alors, à l'heure actuelle, c'est encore en réflexion. On ne sait pas encore comment les choses peuvent se faire, parce qu'il faut trouver le bon lieu. Il faut avoir un espace un peu comme auditorium on a aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas ça dans les bibliothèques nécessairement. Donc, il faut trouver des aménagements de manière très pratico-pratique. Quel type de public on pourra accueillir? Beaucoup, peu de personnes. Il y a bien sûr les droits de projection. C'est des choses qui se préparent en amont, qui sont des fois assez difficiles. Je vais essayer d'être assez bref, parce que je sais que j'ai des collègues qui interviennent cet après-midi un peu plus là-dessus. Mais il y a des réflexions qui sont en cours sur les types de projections qu'on pourrait faire. Il y a des idées, et ça se développe en tout cas.
Merci David. Eric, de votre côté, avec Retour d'Image, vous avez justement un catalogue de films accessibles. Alors du coup, j'aurais deux questions à vous poser. C'est comment vous avez constitué cette collection de films accessibles, de films accessibles. Et puis comment les bibliothèques justement peuvent s'en saisir pour projeter au sein de leur établissement.
D'accord. Alors pour la première question, le catalogue de Retour d'Image, il est issu d'un comité de programmation qu'on a à Retour d'Image, qui se réunit assez régulièrement. Donc c'est un comité qui se compose de personnes en situation de handicap, des professionnels de cinéma en situation de handicap. Et on a nommé certains critères pour pouvoir choisir des films. Donc la pertinence pédagogique, la singularité aussi du personnage principal qui est représenté dans le film en question, mais aussi s'il est adapté ou pas, puisque comme je vous l'ai dit, le comité est composé de personnes qui sont en handicap, donc il y a aussi bien des déficients visuels que des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi des personnes en situation de handicap psychique. Et donc, on va créer justement cette entrée dans ce catalogue qui est disponible sur le site Retour d'Image, où vous allez voir donc le titre, le résumé et le niveau d'accessibilité du film qui est proposé par ce comité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, hélas, tous les films ne sont pas totalement accessibles. Donc, on a des films aussi bien accessibles au niveau du sous-titre sur entendant que de l'audio-description. Et ces films-là, donc, peut faire l'objet justement d'un travail avec les bibliothèques. Donc, si vous êtes une bibliothèque et vous êtes intéressé, donc vous pouvez nous contacter via ce catalogue, via le site. Et à partir du moment où vous voulez travailler avec ce film-là, alors soit on vous met en lien avec le distributeur, si vraiment vous ne pouvez pas le faire de votre côté, puisqu'il faut savoir que nous, on essaye de se mettre déjà en lien avec le distributeur pour pouvoir proposer les films à ce comité. Et vous pouvez vous approprier selon aussi les thématiques que vous voulez travailler. Par exemple, pour les journées autour du handicap, on a pas mal de films qui se composent, mais aussi autres. Hein. Par exemple, on a eu une demande il y a quelques années sur le travail. Donc voilà, on a des films qui sont accessibles autour donc de la thématique du travail, qui peut être soit totalement accessible, audio description et sous-titres, soit partiellement. Mais ça, c'est indiqué. Donc voilà ce que je peux dire sur l'appropriation, en tout cas, de ce catalogue par les bibliothécaires.
Super, merci.
Peut-être est-ce que oui. Je peux me mettre un petit complément sur la programmation. En fait, il y a aussi une vraie question à vous poser sur votre démarche, vous, pédagogique en médiathèque. Est-ce que vous voulez faire une sensibilisation au handicap? Et dans ce cas-là, un film sur le handicap paraît très adapté. Mais c'est très différent de s'adresser au public en situation de handicap. Et dans ce cas-là, un film sur le handicap pourrait peut-être être, au contraire, et on en parlait, un petit peu, non pas répétitif, mais comme c'est déjà le quotidien des familles, la seule projection que vous faites est un film sur le handicap, c'est peut-être parfois passer un côté d'un enjeu aussi de divertissement. C'est-à-dire que les publics n'ont pas forcément toujours envie de se savoir ou de se voir représentés. Donc voilà, réfléchissez aussi à votre démarche de programmation, savoir dans quel axe vous voulez aller. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un accompagnement justement sur la découverte de l'audio-description ou autre pourrait être vraiment très très pertinent auprès d'un public non concerné, même si bien sûr les publics concernés seraient aussi ravis bien sûr d'échanger sur leur version et sur leur ressenti. Mais peut-être, voilà, réfléchissez toujours à votre axe et à votre logique, même dans vos invités, dans les associations locales que vous connaissez qui pourraient intervenir aussi. Je pense qu'il y a une vraie démarche un petit peu différée. Sauf, par exemple, sur des films événements, et j'y reviens. Par exemple, nous, là, dans le réseau, donc on a maintenant 74 salles de cinéma, et d'ici la fin de l'année, 84, dont deux bibliothèques. Donc, c'est pas énorme dans l'ensemble du réseau cinéma qu'on nous accompagnons. Mais, par exemple, un petit truc en plus, c'est à la fois un film événement, à la fois un film divertissant, et à la fois un film que le public concerné nous a réclamé. Parce qu'en fait, il y avait vraiment une demande de se savoir représenter et de profiter de ce moment-là ensemble pour peut-être avoir une interaction. Donc toujours, en fait, les films, dépendamment de leur contexte, bien sûr, de diffusion, sont aussi vecteurs de certains messages, et il est intéressant de pouvoir les programmer dans ces cadres-là, même si c'est pour vous un petit peu plus tard en fonction de la sortie DVD. Mais voilà, certains films s'y prêtent plus ou moins, mais gardez à l'esprit toujours votre public cible en termes d'adresse et notamment de médiation.
Oui, merci Juliette, c'est effectivement intéressant de le souligner. D'ailleurs, pour faire la transition, une fois qu'on a choisi son film en fonction du public, et voilà, est-ce qu'on fait une sensibilisation sur le handicap ou si on, est-ce qu'on fait des séances, enfin des projections favorisant la mixité des publics, du divertissement, etc. Se pose bien souvent la question de la médiation. Est-ce qu'on propose des actions de médiation ou pas? On en a parlé hein, quand on a préparé cette table ronde. Et justement, vous, je vais commencer par vous, David. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez de la médiation à chaque fois que vous proposez une séance accessible? Et si oui, quel type de médiation vous proposez?
Bon, je vais essayer de vous résumer tout ça assez rapidement. Alors, comment dire, c'est vrai que quand on va faire une diffusion, alors un film, un documentaire sur une thématique, quelle qu'elle soit, hein, c'est vrai effectivement, comme ça a déjà été dit, nous on essaye de faire des choses de la vie quotidienne, finalement pas forcément centrées sur la thématique des personnes sourdes elles-mêmes. On essaye de voir un petit peu ce qui peut se dire, ce qui peut se faire, et on essaye de trouver une thématique un peu intéressante, alors en fonction du contexte aussi, et on essaye de faire un peu d'une pierre deux coups. Donc il y a une question de communication, bien sûr, aussi, hein, d'informer les publics pour les faire venir sur place, des inscriptions, etc. Donc il y a la projection, le moment du film, et ensuite c'est suivi alors soit d'échanges avec des personnes invitées, pourquoi pas des personnes qui ont participé au film, ou en tout cas voilà un petit attrait avec le film, voilà, pour des échanges assez classiques, de manière assez simple, hein. Après voilà, c'est des projections qui sont ouvertes à tout public. Alors bien sûr il y a des interprètes qui sont présents ou présentes comme aujourd'hui, parce que les interprètes ne sont pas là que pour les personnes sourdes, hein. Les interprètes sont là pour tout le monde, pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue des signes aussi, et donc on a des échanges comme ça en public mixte.
Parfait. Eric, vous, de votre côté, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, vous proposez des ateliers justement autour des films. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se, voilà, comment ça se déroule?
Alors, en effet, en plus, ce qui est souvent le cas, c'est que les ateliers accompagnent parfois des séances de projection, donc soit le jour même ou le lendemain. Alors, on propose le plus souvent, c'est des demandes des ateliers d'audiodescription. Donc là, on a plusieurs formes d'ateliers d'audiodescription. On verra en détail cet après-midi également les différentes formes, parce que là, on aurait besoin de plus de temps pour les décrire. Donc, en général, on voit avec la capacité technique de la salle d'accueillir cet atelier. Si on fait quelque chose de magistral ou si on fait quelque chose avec des postes où on met en condition. Alors, en mettant en condition, on a toujours un auteur d'audiodescription et une collaboratrice ou un collaborateur non-voyant qui va travailler sur un parcours d'écriture en deuxième partie. Donc c'est plus à la sensibilisation, hein, bien sûr, puisque ça dure 3 heures, 3-4 heures. Hein, on n'a pas le temps de faire un atelier en entier. Et on va les mettre en condition. Alors c'est pour ça qu'en les mettant en condition, hein, vous l'avez vu ce matin, c'est toujours, il y a un auteur qui accompagne notre collaborateur, collaboratrice, pour écrire une audiodescription. Et bien, les participants, on va les mettre en situation. Il y en a un qui aura le bandeau et un autre qui pourra composer. Donc bien sûr, on ne les lâche pas, c'est plutôt en deuxième partie d'atelier, en première partie d'atelier, hein, on y va doucement. On présente un extrait avec le son seul, hein, son audiodescription, on les interroge. Ensuite, un deuxième extrait avec audiodescription. Puis après, on montre l'image. Et à partir de cela, va découler justement un parcours. Enfin, on les tient par la main. Et en deuxième partie, ils sont tout seuls à composer. Ensuite, une partie de restitution en dernière partie d'atelier. Voilà. Alors, parfois, c'est vrai que ça peut être intéressant d'user un petit peu du local qui est dédié dans les médiathèques, parce que maintenant, on a des auditoriums, des espaces dédiés. Donc, parfois, on aime bien les mettre devant un écran et ensuite dire leur description avec un micro, comme on peut le faire aujourd'hui sur cette configuration-là. Voilà pour les ateliers. On a aussi donc des ateliers qu'on mène. Alors là, on l'a plus fait cette année, plus à destination des scolaires, mais on a essayé un petit peu d'amorcer au sein des bibliothèques des ateliers sous-titrage sourds et entendants. Donc voilà, la problématique est toujours la même, c'est la technique qui est donc dans les espaces qui sont dans vos médiathèques, et de voir comment on peut travailler tout ça. Mais tout peut se faire, tout peut se construire.
Super. Aurore, vous qui avez une grande expérience, 15 ans d'expérience sur la question de séances accessibles, est-ce que vous avez peut-être un exemple justement d'une médiation qui a particulièrement bien fonctionné, ou deux d'ailleurs ?
La médiation, en fait, chez nous, il n'y a pas... Donc la séance se passe, on l'introduit, toujours on introduit le film, et on prévient les publics que la séance est en audio description pour tout le monde. Parce que nous, notre auditorium, on ne peut pas avoir ce système de casque. Donc le film est projeté via un lecteur DVD vidéo proche, et l'audio description, la piste audio décrite du DVD. Donc on prévient toujours les publics. C'est arrivé qu'une seule fois en 15 ans qu'une personne sorte parce qu'elle n'avait pas compris ce qu'était l'audiodescription. Donc, ou elle n'avait pas aimé, enfin voilà, elle n'était pas réceptive. Donc, et donc nos séances ne sont pas sur réservation, elles sont libres, les personnes arrivent, elles s'installent et elles découvrent le film. Et on a choisi, enfin, après on pourrait avoir un budget pour faire des travaux, etc. Mais moi quand je suis chez moi sur mon canapé, que je regarde un film, j'ai pas de casque. Je l'écoute comme ça. Et on a un rôle aussi en bibliothèque de sensibiliser. La médiation, pour moi, elle vient de là. Je sensibilise le tout public avec cette séance en audiodescription où il n'y a pas de casque. Donc, c'est une séance pour les publics, pour tout le monde. Parce que l'audiodescription, on l'a vu, ce n'est pas seulement pour une personne malvoyante ou une personne aveugle. C'est aussi pour une personne voyante parce qu'il y a sûrement des petits détails dans le film qu'elle n'a pas perçus. Et cette petite voix, bah, effectivement, quand elle est bien faite, eh ben, on l'oublie. Elle est présente, mais on ne l'entend plus. En fait, elle fait partie du film. Et c'est ça qui est bien quand la projection est réussie. Quand les gens restent et qu'ils ne s'en vont pas, c'est qu'on a fait notre médiation, on a choisi le bon film. Y a quelque chose qui se passe en salle. Souvent, j'entends les mouchoirs, mais bon, voilà. C'est le film que je propose toujours avec beaucoup d'émotion. Et à la fin, je ne les retiens pas. Je ne dis pas « bon, alors on va en débattre, etc. » Je leur dis « voilà, je vous attends en haut, dans le hall, et vous pouvez venir me voir. » Je ne les oblige pas à rester et à débattre. Et souvent, bah, ils viennent, il n'y a pas besoin, ils veulent en discuter. « Oh, mais c'était génial, c'était un peu dur. » Et ils ne parlent pas de l'audiodescription, ils me parlent du film. Après, oui, des fois, c'est arrivé. Je voulais absolument mettre ce film-là. L'audiodescription, bon, elle n'était pas top. Bah, direct, je me fais casser derrière. Ils me le disent. Parce qu'ils sont devenus très exigeants en 15 ans. Et on a quand même fait des ateliers de découverte audiodescription. Et c'était des malvoyants qui sont venus pour voir un petit peu éduquer leur oreille. Il y en a qui pensaient connaître l'audiodescription. Et grâce à cet atelier, ils ont découvert ce que c'était réellement. Donc il y a ça qui marche bien. Et puis, aussi à un partenariat qu'on a avec le Black Maria, qui est le pôle d'éducation aux images, ils ont un kit avec 16 films qui sont sur le handicap. Et donc, on programme toujours, une fois dans l'année, une séance de court-métrage du Black Maria avec 4 petits films qui parlent de handicap. Donc là, c'est voulu, mais ça fait partie de la médiation et ça marche aussi. Et donc là, il y a l'animateur qui vient et qui va débattre entre chaque film. Là, on parle plus du handicap, des choses comme ça. Pas vraiment de l'audiodescription, on parle vraiment du message du film.
Oui, c'est en fait comme toutes les actions au sein des bibliothèques, il y a des diversités de médiation qu'on peut proposer, et puis ça dépend des séances, il peut y avoir des rencontres avec des réalisateurs, réalisatrices, des ateliers, ou juste des temps d'échange avec une bibliothécaire en fin de séance pour discuter.
C'est ça, ou ce qui marche bien aussi, c'est le café.
Ah, le café, mais très important.
Là, il reste.
Juliette, j'ai envie de vous poser deux questions par rapport justement à ce que vient de dire Aurore. C'est est-ce que justement dans les séances relax, on peut faire de l'audio description ouverte, ou projeter aussi en même temps des sous-titres SME, justement dans une logique d'inclusivité. Et justement, est-ce que la question de, on organise une séance relax, est-ce qu'on peut proposer derrière une rencontre avec un réalisateur ou une réalisatrice, ou est-ce que ça va pas être un petit peu trop pour le public concerné ?
Merci pour ces questions. Alors, en effet, vous l'avez compris, peut-être je vais resituer un petit peu qu'est-ce que la séance relax. Je pense que ça vous parlera davantage. Donc, comme je voulais expliciter, c'est une séance qui est ouverte à tout le monde, en inclusion, avec ou sans handicap, particulièrement ouverte dans une logique d'accessibilité humaine. C'est-à-dire que le SME, donc sous-titre sourd et malentendant, et la version audio décrite, s'adresse tout spécifiquement, en tout cas, aux personnes avec un handicap sensoriel. Nous, on va prendre un complément d'accessibilité humaine pour pour permettre l'accès aux familles et au public, justement, qui ont ces comportements atypiques. Alors, cette accessibilité humaine, elle s'appuie bien sûr sur l'accessibilité de votre bâtiment en tant que médiathèque. Est-ce qu'on peut circuler en fauteuil ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Mais elle s'adresse aussi à toute votre logique d'accessibilité au sens large, votre signalétique, votre communication. Donc en fait, tout ça, on le voit ensemble pour vraiment proposer un cheminement du spectateur le plus complet possible et le plus accessible, mais qui va surtout se traduire par de l'humain. Donc en fait, vous aurez toujours des personnes qui seront formées, qui vont venir compléter votre équipe habituelle, le plus souvent par des bénévoles, qui vont venir en fait compléter votre équipe au sein de la médiathèque pour accompagner humainement la séance. Ceci étant dit, on va avoir quelques compléments techniques, donc un son qui va être un petit peu moins fort, et donc ponctuellement, selon les versions des films, en plus d'une accessibilité humaine dans la salle avec ou sans handicap, une proposition de sous-titrage, qui n'est pas forcément un sous-titrage SME, et ça par contre, je le regrette, mais je le précise d'emblée, qui parfois est un sous-titrage en français. Faute de version dans les DVD, on va préférer malgré tout le sous-titrage français, bien que ça n'a pas vocation à le remplacer, mais en tout cas on essaye de faire avec les moyens du DVD ou les moyens du bord. Et par contre pour l'audiodescription, je ne crois pas que ça se soit fait. Dans les médiathèques, en tout cas au sein du réseau, je ne pense pas que la version audiodécrite ait été réalisée, en tout cas au grand public comme tu le précisais. Au cinéma, on passe beaucoup plus par les casques, donc dispositifs individuels d'accessibilité, mais pas forcément sur ce collectif. Nous, la sensibilisation, par contre, se veut collective. Et là, par contre, on se rejoint, c'est-à-dire que l'ensemble des publics sera toujours informé en amont de la séance, de la spécificité de celle-ci, pour qu'il y ait justement une compréhension plus large des comportements qui pourront s'y manifester. Évidemment, quand vous êtes informé que possiblement à côté de vous en salle, quelqu'un pourra verbaliser, parler plus fort, faire des cris, et bien en fait, ça se passe beaucoup mieux en termes de compréhension et d'interaction avec le public concerné, puisqu'il n'y a plus cet étonnement de « Ah bon, quelqu'un réagit à côté de moi ?» Mais en tout cas, on tend vers une accessibilité qui est du 100%. Donc en plus de nos publics cibles, on va bien sûr essayer d'inclure du sensoriel. Pour vous donner un chiffre, on est à peu près à 40% des séances qui sont audio-décrites et sous-titrées sur l'ensemble des séances annuelles. Ça donne à la fois une échelle sur l'ensemble du réseau. On est sur plus de 500 séances à l'année. Donc ça donne quand même une petite marge de progression. Mais ça donne aussi l'idée que tous les films ne le sont pas. Alors le CNC a fait un gros travail de mise en obligation de cette accessibilité sur l'audiodescription et le sous-titrage. Mais après, nous, on est pour aussi cette information complémentaire et le fait que, encore une fois, nos salles de cinéma, plus que les médiathèques, ont aussi ce rôle à jouer. La séance relaxe. Il faut savoir que parfois, le sous-titrage peut être parfois gênant pour nos publics. Donc, on a une double complexité où une personne autiste, avec ce sous-titrage coloré et supplémentaire, peut parfois être malheureusement un petit peu plus gênée. C'est pas un objectif. On est aussi dans cette éducation et cette sensibilisation. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire aux salles qui sont engagées, bah, en fait, le sous-titrage, bien sûr, mettez-le sur la séance relaxe, mais classiquement, mettez-le tout le temps. Mettez-le sur l'ensemble de vos séances et non pas forcément sur la séance mensuelle relax, alors que vous en avez la capacité technique. Et l'audiodescription, c'est exactement pareil. Tout film pourrait être audio-décrit, sachant qu'en plus, c'est un dispositif individuel en salle de cinéma. Donc typiquement, en termes de gêne supposée des spectateurs habituels, c'est quasiment inexistant. Donc en fait, il y a une sensibilisation qui est plus large que sur la relax, qui est dans une démarche de programmation, préciser à la salle que si elle a la technique, elle peut le faire quand elle le souhaite. Avec ou sans nous, du coup.
Vous souhaitez réagir, David, peut-être sur la question des sous-titres lors des séances relax?
Oui, pour être peut-être complémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'en cinéma, quand on veut voir un film, bah nous, il faut qu'on vérifie avant. Est-ce qu'il y a le sous-titrage? Est-ce que c'est du sous-titrage SME? À quelle heure? De quel moment? Et c'est vrai que oui. Nous, l'idéal, ce serait d'avoir des séances qui soient accessibles en permanence. Et comme ça, on se dit, bah tiens, j'ai 2 heures à perdre, entre guillemets, je vais au cinéma et c'est bon, j'ai pas à me poser la question. Et de fait, c'est vrai qu'il commence à y avoir maintenant des lunettes 3D avec le sous-titre, l'interprétation intégrée dans la lunette. J'ai quelques retours qui, a priori, sont plutôt positifs. Alors moi-même, je n'en ai pas encore fait l'expérimentation pour savoir un petit peu, pouvoir évaluer. Mais il y a des choses qui se mettent en place, et c'est vrai que ce serait un peu le système où, un petit peu comme pour les casques, hein, pour l'audiodescription, en fait, à condition que la salle soit équipée du matériel, on aurait cette accessibilité pleine et entière, et on pourrait aller à n'importe quel cinéma, à n'importe quelle heure, se dire, bah tiens, j'y vais. Et en plus, les gens auraient possibilité de choisir entre un sous-titrage et une version en langue des signes interprétée, donc oui, c'est de belles évolutions. Voilà, c'était mon petit complément d'information.
Merci David. Aurore aussi ? Vous voulez dire quelque chose ?
Par rapport au cinéma, c'est vrai que pour les malvoyants, il y a une application qui s'appelle ToiVox, que vous connaissez quasi tous. Et ce qui est bien aussi, c'est que les cinémas, il faudra qu'ils jouent le jeu. Parce que moi, si j'ai du monde dans ma bibliothèque, c'est parce que les deux cinémas qui sont dans ma ville ne prennent pas vraiment ces outils-là pour les publics, en fait. Pour eux, c'est faire du chiffre, c'est... pas vraiment le temps de m'occuper de la personne pour lui montrer comment fonctionne l'appli, ou pas le temps de prévenir les personnes en disant ben voilà, on est lundi, mardi, les sorties cinéma, ben il y aura celle-ci en AD. Ils ne le font pas. Et donc c'est vrai que si on pouvait essayer d'amener ce partenariat cinéma-bibliothèque, enfin moi j'y suis pas arrivée dans ma ville, mais je trouve que ça pourrait être très complémentaire et ça pourrait faire des belles choses. Donc si vous avez un cinéma et qu'il y a la possibilité d'avoir cette appli, je suis sûre que vous pourrez faire des choses superbes.
Oui, c'est effectivement une question que j'allais vous poser, parce que quand on se lance dans ce projet de proposer des séances accessibles en bibliothèque, à quel moment il faut, à quel moment est-ce qu'il faut, je parle aussi peut-être à Juliette qui connaît bien les cinémas puisque le dispositif Relax est bien implanté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que il faut tout de suite aller, déjà il faut connaître ce que fait le cinéma de son territoire. Est-ce qu'il faut les contacter ? Parce qu'on en a parlé dans notre en préparant cette table ronde, c'est que les séances de cinéma en bibliothèque, elles sont pas forcément. D'ailleurs, on dit pas ça, on dit des projections. des projections accessibles en bibliothèque. Elles peuvent être perçues par comme une concurrence. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Juliette, Aurore, comme
si tu souhaites répondre. Ouais.
Moi j'ai eu des. Enfin, normalement, quand on est en bibliothèque, on doit projeter un film un an après. On a un an. Et des fois, ça arrive qu'on obtienne les droits avant. Et puis, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec un cinéma à côté qui est justement cette histoire de concurrence. Et donc, je lui ai dit, mais ça faisait 9 mois. Il y avait 3 mois, pour 3 mois, quoi. Et il passait plus le film dans son cinéma. Et en fait, c'était le moment pour m'attraper, quoi. Et je lui ai dit, mais c'est normal que personne vienne dans votre cinéma. Vous faites rien. Je dis, moi, j'ai un public, je propose des choses, je vais vers eux, je les accompagne, je les aide. Mettez des smartphones avec ToiVox, prêtez les smartphones aux gens s'ils n'en ont pas, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui ont du mal avec les nouvelles technologies, etc. J'y ai de la demande. Moi, ils viennent tous, ils veulent aller au cinéma, mais vous ne voulez pas les accueillir. Alors, ils me disent, si, le jeudi matin à 11h. Ouais, super. Chez moi, mes usagers, ils m'ont demandé de faire des séances de cinéma le samedi après-midi. Parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler.
Preuve.
Donc, et puis l'autre cinéma avec qui vous pourrez faire des choses, malheureusement, il y a 45 minutes de transport en bus à faire. Et les bus ne sont pas tous avec des rampes pour les fauteuils roulants, etc. Et il y a des transports adaptés. Mais ils vous emmènent, mais ils ne viennent pas vous rechercher. Parce que ce n'est pas à Reims même, c'est une ville à côté, quoi. C'est une zone commerciale. Donc il y a vraiment ces problèmes de mobilité. Il n'y a pas de cohésion qui pourrait faire que le cinéma et la bibliothèque soient complémentaires. Et puis ce cinéma qui ne comprend pas les enjeux. Il y a un public, ils sont là, ils attendent que ça d'aller payer leur place de cinéma. Sauf qu'ils ne veulent pas faire de médiation et d'accompagnement. Donc tant pis pour eux et tant mieux pour moi.
Juliette,
peut-être en compliment et un tout petit peu quand même pour la défense des salles. non, mais parce qu'en fait les salles de cinéma, elles sont aussi prises dans un choix et dans un marché qui est très très large. Il n'y a pas que ToiVox, il y a énormément de choix de matériel, dont du matériel qui est défectueux. On a du mal à savoir vers quel interlocuteur se tourner quand on a un matériel qui ne marche pas. Il n'y a pas forcément de formation et d'accompagnement des agents pour montrer comment ça marche. Il y a énormément de sons de cloche sur il y a un dispositif qui est autonome, est-ce que c'est mieux ? Et en même temps, nous, on est plutôt partisans du fait qu'il vaut mieux que ce soit la salle qui soit équipée et qui fournisse du matériel plutôt que de tout mettre sur une application qui serait sur la responsabilité des publics concernés. Mais c'est des enjeux qui sont très, très larges. Pour le coup, la CST, le CNC et beaucoup d'associations, Retour d'image, et beaucoup d'associations du champ du handicap travaillent et essayent de travailler en cohésion pour accompagner les salles vers une meilleure, vers une meilleure mise en accessibilité du sensoriel, mais en tout cas les salles essayent en tout cas un maximum. C'est aussi un dispositif qui est coûteux, bien sûr il y a des aides, mais il y a énormément de questions sur ce volet là et puis elles doivent être accessibles pour tout le monde. Donc il y a aussi une mise en accessibilité légale sur les ascenseurs, les rampes. Donc pour elles, ça fait aussi beaucoup. Pour vos salles, certainement aussi beaucoup en tant que médiathèque. Donc il y a aussi parfois, on est obligé de faire les choses par étapes et d'avancer petit à petit. Je pense que c'est un grand sujet pour elles et qu'au contraire, elles essayent d'y faire attention. Preuve en est déjà sur nos salles du réseau. C'est 84 sur je ne sais combien, mais tout de même. En tout cas, c'est déjà très parlant. Et quand elles sont sensibles à la relaxe, donc à ces publics, croyez bien qu'elles sont sensibles aux autres spectateurs. Et on le voit souvent qu'une première démarche d'accessibilité en emmène une autre. Parce qu'on se rend compte que cette accessibilité, elle est universelle. Et on le voit, par exemple, sur le fait d'avoir une séance dans laquelle on peut s'exprimer plus librement en termes de sensations, où on peut parler peut-être un peu plus fort, où il y a quelque chose de plus vivace. Ben, on le voit sur le jeune public directement. En fait, les enfants se sentent beaucoup plus libres de s'exprimer par rapport à des codifications qui les dépassent en termes de comportement. Donc ça, c'est quand même à tendre. Et autrement, sur la collaboration avec les salles, moi, j'ai un très bel exemple à Sarzeau, qui est une médiathèque... Pardon, trois médiathèques maintenant dans le réseau, excusez-moi. C'est la plus récente, c'est pour ça. On a réussi à trouver, en fait, il se trouve que et la médiathèque et le cinéma de la même ville sont partenaires. Donc Sarzeau, c'est dans le Morbihan, en Bretagne. Et on a réussi à trouver... Bon, la Bretagne, vraiment big up sur l'accessibilité. Vraiment, sur les bibliothèques bretonnes et les cinémas, c'est très, très bien. En tout cas, il y a une vraie démarche qui est intéressante, c'est-à-dire que le cinéma proposera mensuellement une séance relax dans un film d'actualité et la médiathèque viendra compléter cette accessibilité pendant les vacances scolaires, alors qu'il n'y a pas de relax pendant les vacances. Donc on a en fait un continuum annuel où la médiathèque vient proposer une séance gratuite pendant les vacances, ce qui permet à la médiathèque de s'habituer un petit peu au dispositif et de le faire en tout cas à tâtons 4 fois par an, on va dire, au lieu de 8 en salle de cinéma habituelle. Ça permet aussi un continuum pour les publics, d'avoir une séance qui est régulière, mensualisée dans deux espaces. Mmh. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé, sachant qu'encore une fois, je rassure les médiathèques, les cinémas intelligents, il n'y a pas de mise en concurrence. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sur les mêmes films. Et la gratuité, du coup, elle se situe ailleurs. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence factuelle en termes d'actualité. Quelqu'un qui a envie d'aller voir Kirikou, il ne pourra possiblement pas aller le voir au cinéma, mais il pourra le voir dans vos médiathèques. Donc, en fait, il y a vraiment une complémentarité essentielle à saisir. Si votre cinéma n'est pas capable de l'entendre, n'hésitez pas peut-être à créer un temps d'échange ou un rendez-vous sur ce volet avec eux. Mais prioriser davantage un rendez-vous avec les publics et les structures du handicap de proximité pour créer des vrais liens, plutôt que de vous embêter avec un cinéma de proximité qui, de toute façon, peut-être n'entendra même pas parler de vous. Donc voilà, concentrez-vous peut-être sur les publics qui vous demandera déjà de l'énergie, plutôt que de chercher une pseudo-adéquation avec une salle qui, dans tous les cas, fera de son mieux de son côté. Mais vous serez toujours en complémentarité plutôt qu'en concurrence. Donc c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Voilà.
Merci Juliette. Alors, on a beaucoup justement parlé de la question des usagers, des publics qui vont assister à ces séances. Du coup, ça me vient l'idée de vous poser la question justement de la communication sur comment on communique sur ces séances accessibles, et puis la question aussi des partenariats. Donc, on en a évoqué un premier qui est peut-être le cinéma ou les cinémas de son territoire en fonction de ce qui s'y passe. Je vais peut-être commencer par vous, Eric. Vous, avec votre association, comment justement vous travaillez cette question de la communication auprès des publics et puis des partenariats ?
Alors, pour dans un point de vue à retour d'image, comment on travaille, en fait, nous, on a donc les réseaux sociaux, comme toute association, les newsletters, mais également différents biais de communication, comme des communications de vidéos en LSF. Je parle notamment pour les ciné-débats. On va annoncer les événements via des vidéos qui seront donc accessibles en direction, par exemple, du public sourdement entendant. On a un réseau. Donc, on travaille en réseau également, donc des réseaux partenaires où on va communiquer l'information. Notre newsletter, elle est lue par ces réseaux-là. Et aussi, dans un deuxième temps, donc pour la salle va travailler aussi avec... elle-même connaît son public et son réseau aussi également. Mais on peut aussi l'aiguiller, l'accompagner sur ce tissage de partenaires sur le territoire. Alors bien sûr, on ne connaît pas tous les territoires. Par exemple, si ça se passe au bout de la Bretagne, c'est sûr qu'on ne pourra pas forcément faire quelque chose. Mais si on a intérêt, voilà, on pourra communiquer en effet autour de cet événement. Et bien sûr, nos communications sont accessibles Donc autant pour les descriptions via les liseuses sur les informations qu'on va envoyer, mais voilà, comme je vous le disais, aussi des vidéos en LSF pour pouvoir communiquer au mieux sur ces séances ou ateliers accessibles, sur cette médiation accessible.
Merci. David, de votre côté, comment vous communiquez sur ces séances justement? Et puis, est-ce que vous avez des partenariats réguliers, ponctuels, pour communiquer, faire connaître l'information?
Bah pour compléter ce que disait Eric, oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand nous, il va y avoir une projection d'un film ou d'un documentaire, on a un travail auparavant qu'on fait dans les pôles sourds des bibliothèques de Paris. On n'explique pas à 100%, mais on fait des espèces de petits teasers un peu. Alors, on essaye de faire appel aussi aux réalisateurs ou des fois à certaines personnes de l'équipe du film pour participer avec nous à la communication. Pour faire une petite explication, un petit pitch sur le film, et ensuite on s'occupe de tout ce qui va être montage vidéo, sous-titrage bien sûr, et donc on diffuse les vidéos comme ça sur Facebook, Instagram, YouTube aussi pour faire de l'information, et donc il y a bien sûr aussi les newsletters habituels pour les gens qui nous connaissent déjà. Et une fois qu'on a diffusé ça, et bien ça ne suffit pas. Donc on fait un partage ensuite dans les groupes Facebook sur Culture LSF, des groupes d'événements comme ça, etc. Et en fait, ça fonctionne beaucoup par le repartage ensuite de cette information-là. On sollicite des fois certains partenaires à qui on demande de pouvoir aussi faire le relais. Ça demande du temps, forcément, de se centrer là-dessus. En fait, c'est du bouche à oreille, finalement, nous, pour le relais d'informations. Et ensuite, on a des systèmes d'inscription pour que le public puisse venir sur place. Donc, on a un accueil au moment de la projection. Donc, en général, on essaye d'avoir le réalisateur, réalisatrice, donc avec les interprètes, bien sûr, qu'il faut prévoir auparavant aussi. Et donc, une fois que la séance est terminée, voilà, il y a des échanges. Et puis, voilà, en gros, de A à Z, comment ça se passe pour une projection.
Très bien, merci. Merci David. Aurore, vous, de votre côté, est-ce que c'est un peu les mêmes canaux de communication, c'est-à-dire à la fois Internet, disons, ce qui inclut les réseaux sociaux, documentation imprimée
Oui, alors on édite des petits flyers qu'on va faire forcément en gros caractères, avec du contraste, etc. On va communiquer pas trop sur les réseaux sociaux, mais moi je fonctionne beaucoup newsletter, mailing, parce que j'ai le carnet d'adresses de tous les usagers qui, à force, on se crée un carnet d'adresses. Ce qui marche aussi, c'est en fait à chaque séance, on annonce la séance d'après. Je leur dis la date du prochain film. Et puis on communique aussi beaucoup auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. On apparaît sur leur site internet. En fait, ils mettent toutes les actions en lien accessible sur le site de la MDPH ou Handicap Zéro aussi. Et puis surtout, on communique avec nos partenaires. Donc à Reims, il y a plusieurs lieux culturels où il y a de l'audiodescription et même des endroits sportifs. Le stade de Reims, par exemple, fait de l'audiodescription. Donc il y a un opéra, il y a une salle de théâtre, il y a au moins 4-5 comme ça structures. Et donc on n'a pas forcément les mêmes listings et on se renvoie les informations et on partage mutuellement. Moi je vais partager les infos de l'opéra, ils vont partager les miennes, etc. Ça permet de faire venir des publics qui connaissent peut-être pas encore la bibliothèque parce que ça tourne beaucoup. Bien sûr, on communique avec les associations, il y en a 3 spécialisées sur l'handicap visuel sur Reims. Et puis dans l'école, pour les enfants déficients sensoriels, on essaye aussi de les faire venir, mais ça ne suffit pas. Donc il faut se déplacer. Et ce qui marche le mieux, en fait, c'est ça, c'est d'aller vers les associations, d'aller là où ils sont. Et où ils sont, je vous ai dit, c'est là où il y a le café. Donc aller aux réunions mensuelles, aux ateliers. J'entends que, par exemple, il y a une sortie vélo avec la VH. Moi, je vais m'incruster à la sortie vélo avec mes petits flyers et faire venir, etc. Je vais aller démarcher chez les ophtalmos, chez les opticiens, parce que c'est là qu'il y a des malvoyants. Voilà, j'essaye d'aller partout où ils sont. Et souvent, les petits flyers, ils les prennent bien, mais pas les affiches. Et puis c'est le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne bien. C'est plus d'aller se déplacer, d'aller vers les publics, de les trouver, que d'attendre dans sa bibliothèque en envoyant son mail. Ça marche pas toujours, quoi. Mais en fait, ça permet de créer du lien. Ah, tiens, il y a Aurore qui
vient, donc moi quand j'y vais, tout de suite c'est « Ah, c'est Aurore, de la bibliothèque !» Voilà, c'est ça. Donc là je me dis, c'est bon, le lien il est fait, et puis de toute façon à la fin des séances, à chaque fois comme on discute, on échange aussi sur ce qui est cinéma, donc ça leur donne envie de revenir, ils disent « Oh là là, mais oui, qu'est-ce que c'était bien !» Et puis ils se font des potes en plus, donc voilà. « C'est qui à côté de moi ? C'est Michel ? Non, c'est Aruna. Ah, je te connais pas, toi. » Voilà, hop, et puis c'est parti, quoi. Donc, c'est ça qui est beau. Moi, je suis toujours contente. Enfin, j'ai pas l'impression de venir travailler le samedi après-midi, en fait, quand il y a la projection. J'ai l'impression d'être avec mes potes, et puis on regarde un film.
Super. On a tous envie de venir, du coup, maintenant.
Ouais, voilà.
Alors, je vois que le temps tourne. Il y a quelque chose dont on a évoqué tout au long de cette table ronde, c'est quand même la question du budget qui est pas du tout, enfin qui est loin d'être anodine, qui est pas rédhibitoire, mais pas anodine parce que si on fait un petit budget tous ensemble, il faut compter les droits de diffusion. Il faut compter, si on organise une petite action de médiation, si on invite quelqu'un, au moins lui payer les frais de déplacement. On a du budget aussi pour l'accessibilité, des interprètes LSF, des vélotypistes, quelques actions de communication. Et on l'a vu à travers vos exemples, c'est que c'est un peu comme toutes les propositions qu'on propose aux personnes en situation de handicap. Il faut avoir laissé le temps à la proposition de s'installer pour qu'elle trouve du public. Et ça, je trouve que c'est aussi important de se dire, ok, c'est bien d'avoir un budget pour faire des séances accessibles en 2024, mais faut aussi qu'il soit là en 2025 et 2026, parce que la première année, on n'aura sûrement pas 100 personnes comme vous, Aurore. Il faut pas désespérer. Donc ça, je trouvais intéressant de faire un petit focus là-dessus. Et puis on l'a un peu évoqué aussi tout au long de cette table ronde en filigrane, c'est la question peut-être de la sensibilisation, et de la formation de tous les acteurs qui vont être impliqués dans la, décidément je commence à fatiguer, dans la mise en place de ce projet. Eric, justement, vous organisez des formations au sein des bibliothèques, qu'est-ce que ça vous évoque?
Alors oui, en partenariat avec Images en Bibliothèque, on fait une proposition de formation, donc deux modules. Une formation qui est plus à destination de l'accessibilité, donc on va en plus parler de termes d'accessibilité, et une autre plus sur les actions, des actions à mener, et des actions éducatives à mener de façon inclusive. Donc, je m'arrête 30 secondes justement parce que c'est intéressant pour nous. Et en effet, il y a cette loi qui existe, que vous connaissez tous, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. Donc voilà, on a cette information-là, mais à côté de ça, elle n'est pas forcément appliquée. Alors, pas par mégarde, bien sûr, peut-être par manque de formation, justement. Et cette formation-là répond à cette attente-là de pouvoir mettre en application cette loi, donc au-delà, bien sûr, donc, du bâti, mais aussi sur les contenus à proposer. Donc voilà, c'est dans cette idée-là, en tout cas, qu'on a voulu mettre en place cette formation avec Images en Bibliothèque. Tout cela pour répondre justement à ce besoin d'accueillir ces personnes en situation de handicap au sein de votre médiathèque.
Parfait. Alors, justement, pour conclure cette table ronde et laisser un peu la place à quelques questions, je vais vous demander à chacune et chacun d'entre vous peut-être de donner soit un conseil, un encouragement ou un point de vigilance que vous voulez partager aux personnes présentes dans la salle et qui souhaitent se lancer dans la mise en place de séances accessibles en bibliothèque. Peut-être, David, je vais commencer par vous. Un petit conseil, encouragement, point de vigilance pour accueillir les personnes sourdes ou malentendantes. C'est dur d'en donner un, c'est ça?
Oui, moi j'en aurais une liste longue comme le bras. Peut-être tout d'abord, c'est difficile de vous répondre.
Deux, trois, je.
Bon, oui, deux, trois, ce sera mieux. Peut-être déjà un premier petit conseil, de penser à être partenaire avec des structures, des associations de personnes sourdes, Le nom m'échappe aussi. Je sais qu'il y a une structure qui est assez référente. Alors, pas forcément pour les personnes sourdes, mais en tout cas, tout type de handicap, accessibilité. Mais ça peut être très intéressant, voilà, d'avoir des partenariats comme ça. Par exemple, nous, à la bibliothèque Malraux, c'est vrai qu'on aurait besoin d'un établissement plus grand. Alors, je ne sais pas si vous savez, il y a petit, moyen, grand comme surface. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir des partenariats avec des structures de tailles différentes. Et pourquoi pas d'en profiter pour s'auto-inviter les uns les autres, pour faire des choses comme ça. Et puis bien penser aussi à participer. Voilà, c'est vrai que nous, d'avoir des référents sourds aussi, qui participent aux projections, qui sont là pour faire la médiation. Et c'est sûr que ça se passera bien si vous avez des gens, des personnes concernées. Voilà.
Merci David. Aurore, peut-être sur l'accueil des publics malvoyants et non-voyants.
Bah, c'est pareil, je vais avoir deux petits conseils. Donc, le premier frein pour une personne aveugle ou malvoyante pour venir à la médiathèque, c'est le déplacement, l'accessibilité. Donc, si vous avez une possibilité, voilà, de partenariat avec des transports adaptés, de les prévenir de vos séances pour qu'ils puissent libérer des places dans les transports, avoir une place de parking PSH à côté de votre bibliothèque. Il faut aussi ne pas hésiter à aller voir les élus, hein, parce que ça se fait très facilement et ils sont à l'écoute. Même pour vos budgets, faut toujours se défendre et batailler dur. Enfin, je sais bien que ça peut être fatigant, mais ça vaut le coup. Et puis, un autre conseil, c'est une fois qu'ils sont arrivés, c'est déjà un gros truc, hein, ils sont là, il faut les accompagner. Et donc, la personne arrive avec son transport adapté, elle est devant votre bibliothèque, eh ben, on l'accompagne au bras, on l'emmène dans la salle, on l'emmène au siège, on lui demande si elle préfère se mettre dans le milieu pour avoir une meilleure qualité de son, ou plus, enfin, voilà, où elle veut s'installer. Et surtout, bah, se former à ces gestes de guidage. Parce que même moi, dans ma bibliothèque, je vois des collègues, alors que je leur ai expliqué 1000 fois comment on guide, bah, il pousse la personne vers l'avant, allez vas-y, va tomber dans l'escalier. Donc la base, c'est quand même d'apprendre les gestes de guidage. Et ce qui est la petite anecdote qui est très drôle, donc il y avait quelqu'un qui était très impliqué, hein, il était trop content que je lui avais montré comment on faisait. Et là, il voit une dame avec un chien. Oh, il dit, oh, vas-y, je peux la guider. Je dis, ouais, vas-y, vas-y. Et je le regarde, je le suis. Puis il dit, oh, vous êtes contente? Elle dit, bah oui, oui, oh super, vous voulez vous installer où? Oh, bah où vous voulez. Alors il l'accompagne tout en bas au premier rang. Puis là, je regarde, puis il dit, non, mais là, vous allez être bien, vous allez bien voir. Je dis, monsieur, je suis aveugle. J'ai trouvé ça trop mignon.
Bah oui, ça arrive encore.
Ouais.
Merci, Aurore. Juliette, peut-être sur l'accueil du public en situation de handicap complexe ou oui. Situation de handicap intellectuel.
Et je me permettrai en même temps juste une toute petite, un tout petit insert sur la communication, parce que nous, on a aussi une communication qui est plus spécifique. Nous, sur les publics, le conseil que je vous donnerai, bien sûr, il y a celui des partenariats. Mais il y a beaucoup de conseils qui sont aussi... Alors, on est organisme de formation, donc je ne vais pas prêcher contre, contre ma paroisse moi-même. Mais voilà, sachez qu'on peut aussi, nous, vous accompagner en qualité de... voilà, aussi en formation auprès de vos équipes pour vous donner des conseils d'accessibilité et justement pour appliquer cette loi aussi au mieux dans vos espaces. En fait, je pense qu'il faut aussi... Bien sûr, il faut penser son budget, mais il faut aussi dissocier accessibilité et budget. Encore une fois... Attendez la fin du raisonnement, je ne me tire pas une balle dans le pied. Simplement, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites à mettre en place, qui passent par votre attitude, notamment par le comportement humain que vous allez adopter en termes d'accueil. La patience, c'est gratuit. C'est rare, mais c'est gratuit. Et ça, par exemple, ça joue beaucoup sur le handicap psychique et intellectuel en termes d'accompagnement. Vous ne l'avez pas toujours, le temps d'être patient, parce que vous avez peut-être la queue, vous êtes à l'accueil, vous gérez les retours de livres, vous gérez beaucoup de choses. Mais ça, c'est quand même une clé d'accessibilité qui est importante. Pensez votre accessibilité aussi par des petites choses en signalétique, mettre des flèches. Alors, pour le handicap, encore une fois, visuel, ça peut être un frein, mais toujours essayer de vocaliser en plus et de verbaliser votre accessibilité. Donc, il y a des petites choses comme ça, des conseils de posture. Je vais vous faire un exemple tout simple. Là, je vais vous dire bonjour, bienvenue à une séance accessible. Je la refais. Bonjour, bienvenue à cette séance accessible. Tout de suite, en fait, votre posture va jouer sur l'entrain, sur votre voix, votre manière d'être. C'est déjà un très grand facteur d'inclusion que de se sentir la bienvenue dans vos espaces par votre attitude. Et ça, je pense que c'est un très grand facteur qu'on oublie parfois, qui me semble important. Simplement, sur la communication, toujours penser votre communication en deux temps. Et surtout en deux supports. Une communication, elle se veut numérique, mais elle se veut papier. Vous avez peut-être ce luxe de toujours être dans l'affiche, le flyer, qui est malheureusement une communication qui se perd au cinéma parce qu'on est plutôt sur des panneaux visuels. Mais garder cette communication papier, elle est centrale dans votre accessibilité. C'est vraiment très, très important. Et je pense qu'en numérique, bien sûr, il y a un chemin à faire. Et ça, des organismes comme les nôtres peuvent vous accompagner aussi dans la mise en accessibilité de vos sites, qui parfois ne dépendent pas de vous, mais de vos mairies, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça peut quand même aider de toujours penser ce double mouvement qui se traduit donc par les supports, mais aussi par les publics. Bien sûr, vous avez une lettre d'information qui est tout public à vos adhérents habituels. Partie du principe que dans vos adhérents habituels, il n'y a peut-être pas de public concerné par le handicap. Donc en fait, donner une communication d'accessibilité à vos publics habituels, ce n'est pas fonctionnel. Donc il faut bien doubler votre communication auprès d'un public cible et donc faire un travail de développement des publics véritable dans des partenariats localement. Et en fait, quitte à démultiplier votre communication, la faire de manière cible et globale en termes de sensibilisation. Ça me semble important. Un autre moyen de communication dans lequel nous, on vous accompagne, en fait, les projets Ciné-Relax, ils sont toujours pensés en copartenariat. Vous n'êtes jamais seul en tant que médiathèque, parce que nous, on vous considérera toujours comme lieu d'accueil culturel, n'ayant pas forcément cette expertise handicap. C'est pas forcément ce que l'on attend de vous. On attend une mise en accessibilité, mais pas une expertise. Et donc, à Ciné-Relax, vous êtes en copartenariat avec un acteur du champ du handicap pour que chacun ait ses particularités et puisse travailler ensemble sur la durée dans une pérennisation du projet d'accessibilité, soit mensuel et bien sûr annuel. Donc dans ce cas-là, les médiathèques, le plus souvent, c'est la commune qui s'engage à vos côtés, notamment en termes de coûts et de tarifs. Donc c'est aussi un coût qui est partagé avec un partenaire handicap qui, dans votre commune, peut être la mission handicap ou bien un CCAS, et plus largement, un partenariat tripartite avec, par exemple, une association du territoire que vous connaissez, avec laquelle vous travaillez. Donc ça peut être aussi important, important de l'avoir à l'esprit. Et je vous invite à vous renseigner sur notamment aussi le facile à lire et à comprendre, si vous ne connaissez pas. Ça s'appelle le FALC. C'est une communication qui est très belle, qui est très accessible aussi, notamment pour le handicap intellectuel. Mmh. Et ça, vous pouvez être accompagné par des structures et notamment des publics concernés en relecture pour que votre communication soit adaptée et relue. C'est aussi un moyen de communication que vous pouvez donner à destination du jeune public, par exemple. Parce que comme elle est simplifiée, accessible aussi dans sa forme et dans son vocabulaire, sachez que vous pourrez l'utiliser auprès d'un plus ample public que le public concerné par le handicap. Et dans cette logique d'accessibilité universelle, ça me semble très précieux pour vous de le garder à l'esprit. Voilà, je m'arrête là, mais je suis là aussi cet après-midi, donc vous n'hésitez pas.
C'est ce que
si vous avez
préciser.
Des questions en complément.
Merci.
Donc voilà, merci beaucoup.
Et puis bah, pour finir, Eric, comme c'est un engagement fort de votre association, peut-être sur l'importance d'impliquer des personnes en situation de handicap dans la construction de ces projets.
Tout simplement, en impliquant une personne en situation de handicap, des personnes en situation de handicap, on va créer justement quelque chose de naturel, un travail ensemble. En fait, le but, c'est de se poser la question, comment partager un regard dans une salle de cinéma, dans un auditorium de médiathèque. Et à partir du moment où on se pose cette question-là, on répond justement à ces points de vigilance de l'accessibilité qu'on peut mettre naturellement en le faisant, donc soit en prenant des formations ou soit justement en ayant cette pratique, connaître son public aussi qui fréquente les bibliothèques, l'attitude qui est intéressante aussi, qui est importante. Et en effet, voilà, moi je terminerai par le mot partager le regard, parce que c'est un peu ce qu'on véhicule à Retour d'image. À partir du moment où on se pose la question comment on partage le regard, comment on multiplie les regards, je pense qu'on a tous les facteurs, toutes les réponses, du moins on peut être justement assisté, épaulé par des associations pour pouvoir justement mettre en œuvre cette inclusion des personnes en situation de handicap à travers ces actions culturelles de cinéma qu'on propose.
Parfait. Ouais. Eh ben, merci Eric, merci à tous les quatre pour cette table ronde très très intéressante. On a bien conscience qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais ça tombe bien parce que cet après-midi, on a un forum avec des stands d'autres associations qui sont présentes. Vous serez là, Juliette et Eric, cet après-midi avec nous. Et puis, lors du continuum de l'accessibilité, pas de l'après-midi, mais qui a lieu cet après-midi. On aura aussi l'occasion d'avoir d'autres retours de bibliothécaires autour de la mise en place de séances en audiodescription, de séances relax et de séances avec du sous-titrage SME. On va pouvoir prendre, je pense, 2 ou 3 questions maximum. Alors, on a répondu à toutes les questions, c'est merveilleux.
C'était très complet, apparemment. Oui, non, mais c'est ce que vient de dire effectivement Juliette sur les budgets. Vous êtes là un petit peu rapidement. Est-ce que revenir peut-être sur les différents dispositifs qui peuvent accompagner les salles, comment on peut se faire aider? Est-ce qu'il y a des aides possibles sur les...
Je peux peut-être répondre sur Relax. Alors nous, en fait, on a un budget qui doit se penser en deux temps pour la mise en place de Relax. Un premier budget de démarrage, c'est là où en fait on a tout le processus de mise en place, avec notamment la formation, l'accompagnement à votre première séance, puisqu'on est présent sur la première avec vous. Donc ça peut être aussi, et dans ce cas-là, on essaye d'être accessible même en termes de coûts, pour que même les plus petites communes et les plus petites médiathèques, même si elles n'ont pas forcément d'auditorium, puissent mettre en place des dispositifs d'accessibilité. Donc nous, on est entre 1 000 et 2 000 euros de démarrage, dépendamment de la taille de votre ville et du nombre d'habitants. Donc ça déjà, c'est un coût de démarrage qui compte entre 6 à 9 mois de montage de projet. Ce coût-là, nous, on considère qu'il peut être absorbé par vos communes, puisque voilà, on considère qu'encore une fois, il est à hauteur quand même de tout l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Après, il peut être aidé par la CAF. Donc, dans une demande de subvention, de mise en accessibilité, ça peut être quelque chose qui est possible, parce qu'en médiathèque, vous ne pouvez pas solliciter le CNC, c'est évident, sur les travaux d'accessibilité. Donc la CAF peut être une option. Sachez également que nous, on a des médiathèques qui passent par les Rotary Clubs. Ça peut être particulier parce que c'est du privé, mais quand la commune parfois ne peut pas subvenir à certains sujets d'accessibilité, sachez que certains fonds privés peuvent aussi vous aider dans cette mise en accessibilité-là. Mais voilà, peut-être que 2000 euros pour une commune, bon, encore une fois, on considère que ça peut être quand même un effort de mise en accessibilité, encore une fois, durable. Et nous, on a un principe de cotisation annuelle qui, en fait, permet l'accès à tout un tas de structures, de ressources en tant que structure ressources, que ce soit des webinaires, du temps de conseil. Et on a aussi une journée annuelle avec tous nos partenaires, médiathèques, cinéma, dans lequel, justement, le partage des bonnes pratiques se fait. Et ça, on prend en charge, nous, vos allers-retours en train et vos nuits d'hôtel pour essayer de limiter un petit peu vos frais. Mais c'est vrai qu'on a une cotisation qui peut monter jusqu'à 250 euros annuels. Donc ça vous fait un total, je vous laisse compter, 2250 par exemple pour une première année. Et donc ça, ça peut être aussi un partage qui est anticipé, sachant qu'en médiathèque, on a bien conscience que par rapport au cinéma, vous n'avez pas de billetterie rentrante. Donc les salles, elles ont quand même ce retour un petit peu sur investissement. Vous, c'est des séances qui sont gratuites. Donc ça peut se réfléchir aussi avec vos communes sur peut-être des lignes budgétaires, soit c'est le service culture ou bien votre service accessibilité, CCAS, mission handicap, qui peut prendre ce volet-là. Et voilà pour la question des tarifs nous concernant.
Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, Hélène, oui.
Merci. Je pense que l'aide du CNL qui est accessible aux bibliothèques qui veulent monter des projets autour des publics empêchés est accessible. Alors, sans doute pas pour la cotisation annuelle, mais peut-être pour le budget de démarrage, je pense que ce serait tout à fait éligible.
Tout à fait, en effet. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une autre question avant d'aller déjeuner? Non. Ah, non, est-ce que j'ai vu une main se lever? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, bah très bien. Bah merci encore à mes intervenants pour cette table ronde très enrichissante et vous avez tellement bien tenu les délais. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Je voudrais également saluer la performance des trois signeuses qui sont dans la salle. Merci de les applaudir. Et puis, nous avons aussi une équipe de vélotypistes qui est à distance. Et puis, pour terminer, puisqu'ils assurent toute la qualité de cette captation et de cette retransmission, l'équipe en régie qui se trouve bien en présentiel derrière vous. Et nous vous invitons à nous rejoindre pour le forum autour de l'accessibilité que nous vous avons préparé au niveau 2 de la bibliothèque. C'est à partir de 14h, mais vous pouvez y accéder à partir de 13h45. Ce sera par l'entrée que vous avez empruntée ce matin. Voilà, venez nombreux, nous vous accueillerons avec un grand plaisir et merci encore à tous les invités de cette table ronde. Merci beaucoup.
Merci.